France Culture.
Si, bonne journée. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Joséphine Reynard et Antoinette Benoît, réalisé par Cassandre Puel. Et à la technique ce matin, c'est Alexandre Dang. C'est le dernier volet de notre série consacrée à ceux qui continuent la lutte contre le changement climatique dans un contexte mondial défavorable, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons parlé lundi des coulisses de la diplomatie du climat à l'approche de la COP30 au Brésil, mardi des États fédérés aux États-Unis qui s'opposent au climato-sceptisme de Donald Trump, hier du passage aux énergies renouvelables en Chine, aujourd'hui les États insulaires du Pacifique et comment ils font bouger la justice climatique.
Le changement climatique est une affaire de droits humains et de vulnérabilité de tous les gens qui vivent sur des atolls dans le Pacifique. Où sont les droits de l'homme lorsque la situation les oblige à être déplacés hors de leur communauté, non pas de leur plein gré, mais parce qu'ils doivent partir, parce qu'ils sont impactés par le réchauffement et qu'ils sont forcés de partir.
Nous, les nations du Pacifique, avons très peu contribué aux émissions carbone et à la crise climatique. Pourtant, aujourd'hui, ce sont nos droits fondamentaux à disposer de notre territoire et à nous loger qui sont menacés. C'est pourquoi nous allons nous battre en portant l'affaire devant la Cour de justice la plus puissante du monde.
Nous attendons de la Cour internationale de justice qu'elle reconnaisse que cette politique a déjà causé un préjudice immense à mon peuple et à tant d'autres, qu'elle est illégale, qu'elle doit cesser et que ses conséquences doivent être réparées.
Tout a commencé il y a 6 ans sur les bancs de l'Université du Pacifique Sud, sur le campus du Vanuatu, avec 27 étudiants en droit qui ne voulaient pas se contenter du grand document imprimé et illustré, le diplôme qui leur aurait servi à aller droit devant eux, la tête haute et les tripes vides. Ce qu'ils ont en tête, eux, en se dirigeant tous les jours vers la fac, c'est le cyclone Pam qui, 3 ans plus tôt, a dévasté une partie de leur île, suivi des vrombissements des avions d'aide humanitaire. Ce sont les pêcheurs de leur famille dont les filets ne ramassent plus rien et ce sont les eaux qui montent et qui se rapprochent des populations installées sur les côtes. Ces 27 étudiants, emmenés par le jeune Vishal Prasad, mettent en commun et à profit leurs connaissances en droit pour porter la cause climatique jusque à la plus haute instance juridique du monde dans la salle d'audience de la Cour internationale de justice et poser au juge 2 questions aujourd'hui sans réponse. Quels sont les devoirs climatiques des États et quelles conséquences juridiques pour ceux qui, par leurs actes et par leurs omissions, ont causé des dommages significatifs à l'environnement. La CIJ n'a pas encore rendu son avis, qui ne sera que consultatif, mais avec une haute autorité morale. Et c'est là-dessus que comptent ces étudiants, et avec eux tous les États du Pacifique qui les ont suivis dans leur démarche, pour faire bouger les lignes de la justice climatique. Mais il faut d'abord prendre le temps de raconter cette histoire. Nous sommes en ligne depuis Wellington, en Nouvelle-Zélande, où il est 21h04. Bonjour Géraldine Giraudeau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit international, membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez co-réalisé le film documentaire Nations of Water, les peuples du Pacifique face au changement climatique. C'était en 2022 avec Valérie Batty qui co-réalise ce film. Bonjour Cameron Diver.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes depuis ICI Azur à Nice. Vous êtes doctorant en droit public à l'Université Paris-Saclay et vice-président de l'ONG Island Conservation, donc c'est aux États-Unis, qui défend la biodiversité des fonds marins. Vous connaissez très bien la région par ailleurs. Je vous remercie beaucoup tous les deux d'être avec nous. D'abord pour raconter, Géraldine Giraudeau, comment cette histoire commence, comment l'idée vient à ces 27 étudiants en droit de l'Université du Pacifique Sud, qui est une université répartie sur 12 campus dispersés sur les îles du Pacifique, cette idée donc de se constituer en association et de monter un dossier pour interroger la responsabilité des États dans le changement climatique, à l'appui de quelles expériences et quelles inquiétudes du quotidien d'abord cette réflexion commence.
Bien, c'est vrai que c'est une histoire incroyable qui va mener ses étudiants de Port Vila jusqu'à La Haye en passant par New York. Et c'est une idée, un projet en fait qui est construit dans le cadre de leur séminaire de droit de l'environnement, au cours duquel sont abordés différents thèmes. Et j'imagine, puisque je n'étais pas dans cette salle de classe, mais à un moment donné, les possibilités d'action. Comment peut-on agir? Et je voudrais simplement insister un petit peu là-dessus, parce que si cette question aussi émerge, celle de l'action, à ce moment-là, elle émerge dans un contexte qui est celui de populations, d'étudiants, de jeunes leaders aussi qui luttent contre le changement climatique, qui souhaitent être dans l'action et qui veulent changer ce narratif et ce paradigme en fait qui ferait d'eux seulement des victimes.
On n'est pas en train de couler. C'est ce qu'ils disent, voilà. Leur slogan. On n'est pas en train de couler, nous on se bat.
Exactement, c'est le slogan de l'association. Et donc va être abordée la possibilité de construire une stratégie judiciaire comme un projet d'étude, et celui de solliciter l'avis de la plus haute juridiction internationale s'impose comme étant la plus pertinente. Ils reprennent en fait un projet qui avait déjà été porté par Palau et les îles Marshall en 2011 ou 2012, et qui avait échoué pour plusieurs raisons. On pourra y revenir, parce que le contexte notamment n'était pas le même. Et donc ils vont être à l'initiative de ce grand mouvement qui sera ensuite repris par le Vanuatu, puisqu'il faut que ça soit de toute façon porté à l'échelle étatique, puis par les États de la région, et enfin qui va bénéficier du soutien d'une grande majorité d'États, si bien que la fameuse résolution de mars 2023 à l'Assemblée générale va être adoptée par consensus et donc sollicitée officiellement la Cour.
Alors, le contexte en effet était différent de ces années 2011-2012, quand la première initiative pour obtenir un avis de la CIJ, donc la Cour internationale de justice, a été lancée par les îles Marshall, et qui a cette initiative-là échoué. Là, on est quelques années plus tard, Cameron Diver, avec des événements climatiques aussi qui se sont succédés depuis et qui viennent nourrir à la fois une inquiétude internationale, mais aussi le discours de ces étudiants qui vivent au quotidien le changement climatique, pas seulement les cyclones, pas seulement les déplacements de communautés ou les stocks de poissons comme celui de thon qui diminue, mais aussi des accords qui commencent à être signés entre certains États du Pacifique et des États de la région pour permettre à leurs habitants de partir s'y installer. De quoi s'agit-il ?
Alors là, il s'agit d'une prise de conscience régionale, de la responsabilité mutuelle des États du Pacifique et du bassin Pacifique, les uns envers les autres, face à l'ampleur du phénomène et de la nécessité de trouver des moyens d'y répondre pour le bien-être des populations, en particulier des États et territoires insulaires du Pacifique. Je pense que l'exemple le plus frappant, c'est un exemple récent, c'est ce qu'on appelle l'accord Falepili entre l'Australie et Tuvalu, où on voit un mélange, si vous voulez, de géopolitique et de réponse aux effets du changement climatique dans un même accord bilatéral, où l'Australie s'engage à accompagner le Tuvalu dans ses efforts d'adaptation au changement climatique, à ouvrir une voie de migration pour les populations tuvaluanes qui le souhaiteraient vers l'Australie, y compris dans le cadre du travail et de la résidence permanente sur place, et en échange reçoit un appui stratégique et physique en pouvant utiliser Tuvalu comme un lieu de déploiement de force et avec un droit de regard sur les éventuels accords de sécurité que Tuvalu conclurait avec d'autres États. Voilà, on pense notamment dans ce cas-là à la Chine. Et donc là, on voit encore une fois que les Tuvalu devient acteur de son propre destin quelque part.
Oui.
Voilà.
Et acteur de son propre destin tout en léguant une forme de souveraineté à l'Australie par cet accord. On aura le temps d'y revenir, mais la question de la souveraineté est très importante pour comprendre ce qui se joue en matière de justice climatique dans cette démarche qui est faite auprès de la Cour internationale de justice. On va en parler, en tout cas des États du Pacifique en première ligne, on le dit très souvent, face au changement climatique avec la montée des eaux qui ne concerne pas encore très directement le Vanuatu, quoique le recul du trait de côte, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, comme le rappelle le coordinateur du réseau Action Climat pour le Vanuatu, Willy Misak.
Nous marchons actuellement sur une route littorale très empruntée par notre communauté. On peut voir toutes les surélévations qui ont été installées pour protéger le chemin et on observe clairement les effets du changement climatique sur l'élévation du niveau de la mer qui a dépassé toutes ces protections destinées à protéger la terre de la montée des eaux. Ça montre bien que notre peuple est en train de voir son trait de côte reculer. On sait déjà que dans 5 ans, nous allons perdre tout ce terrain que vous voyez, malgré ces protections.
Extrait d'un reportage de Brut, la chaîne aux États-Unis, Brut America, il y a déjà quelques mois. Alors, reprenons les choses de façon chronologique, Géraldine Giraudeau. À quoi ressemble la première version du texte de ces étudiants, nourris, j'imagine, par des expériences telles que celles qu'on vient d'entendre, des expériences de tous les jours? À quoi ressemble cette première version? On rappelle bien que ces étudiants sont étudiants en droit, que ce sont des juristes.
Oui, c'est ça. Ils vont identifier un certain nombre de questions, mais très vite, l'importance va être de trouver le soutien nécessaire, puisque effectivement la Cour internationale de justice possède une compétence consultative en plus de sa compétence contentieuse, mais elle ne peut être sollicitée que par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité ou par des institutions spécialisées dans le cadre de leur mandat. Donc il est très tôt essentiel de convaincre les gouvernements et en premier lieu celui du territoire sur lequel le campus en question se trouve, qui est celui du Vanuatu. Ça va prendre un petit peu de temps les efforts vont ensuite se multiplier pour qu'il y ait une sensibilisation. Il y a un vrai travail diplomatique pour rallier les gouvernements de la région une fois que le projet est endossé par le Vanuatu. À ce moment-là, il y a un travail qui est réalisé par les étudiants qui se sont constitués en association et par d'ailleurs leur encadrante qui est restée une des figures de ce mouvement, Margareta Wewerinke, et d'autres juristes qui vont effectivement travailler sur la formulation de questions, mais la version qui est finalement soumise à la Cour est différente, mais ça c'est toujours le cas lorsque on sollicite des avis de la Cour internationale de justice, parce que la formulation retenue par les juristes va passer, si je puis dire, par la moulinette des négociations diplomatiques dans le cadre onusien. Et parfois, le résultat n'est pas très éloigné, mais en tout cas, est quand même assez différent de celui qui est proposé par les juristes. Il est souvent plus large. On a eu des exemples par le passé, hein, d'autres demandes d'avis qui étaient formulées au travers d'interrogations comme ça, très générales, ce qui, du point de vue du droit, nous en général, plaît moins aux juristes. Dans le cas de cette affaire climatique, c'est également le cas. Donc, on a, in fine, deux questions, en fait, deux interrogations qui sont soumises à la Cour, très générales. Une plutôt sur les obligations des États, pour résumer, on y reviendra peut-être, et une seconde qui est plus délicate sur les responsabilités.
Parce que ces étudiants, mais ensuite avec eux tous les États, les membres en tout cas du Forum des îles du Pacifique, ils sont 16 au total, forum auquel appartiennent aussi la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, avec des îles plus directement ou immédiatement concernées par la montée des eaux, les Maldives, les îles Marshall, Kiribati. Donc toutes ces îles et ces États vont suivre le Vanuatu dans cette démarche-là, avec différentes dimensions du droit en quelque sorte mobilisées. Cameron Diver, majeur, droit public, droit privé et les droits humains, pour demander à ce que les principes qui sont inscrits dans la loi soient appliqués avec une, disons, une déclinaison climatique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement, la façon dont les étudiants mobilisent le droit au service du climat?
Alors, c'est très intéressant parce que le contexte dans lequel ce mouvement porté par les étudiants a eu lieu, c'est également un contexte d'un essor incroyable du contentieux climatique dans le monde à partir de 2015 et l'adoption de l'accord de Paris. Et là, on voit que dans beaucoup de pays autour de la planète, on essaie, via un mouvement en devenir qui est le mouvement de justice climatique, on essaie de mobiliser le droit pour à la fois obliger les États à respecter leurs obligations prises, par exemple, dans le cadre de l'accord de Paris de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, et également de contraindre des sociétés industrielles qui polluent à faire la même chose, à devenir également acteurs d'un avenir durable pour la planète. Et donc, les droits humains sont devenus l'un des points d'ancrage du contentieux climatique dans le monde, et les étudiants, dont la demande à l'origine tournait autour des obligations des États en matière de changement climatique et de droits humains, s'inspirent très directement de ce mouvement transnational de mobilisation du droit pour répondre aux conséquences multifacettes, en fait, des effets du changement climatique sur la société, sur le bien-être, sur le recul du trait de côte, sur la biodiversité et beaucoup, beaucoup d'autres domaines.
Et ce sont aussi des juristes qui se saisissent d'un droit international qui est le droit à l'autodétermination, et en se disant comment un peuple peut prétendre à l'autodétermination et à la souveraineté si la terre sur laquelle il prétend exercer cette souveraineté se trouve submergée par les eaux. Est-ce que ces États continueront à exister juridiquement?
Oui, tout à fait. Et c'est là encore où le Pacifique était à la pointe, si vous voulez, de l'innovation juridique, avec deux déclarations normatives de 2021 et de 2023. La première qui a été adoptée pour préserver les zones maritimes face à l'élévation du niveau de la mer comme conséquence du changement climatique, en disant en gros que au jour d'aujourd'hui, nous, les pays du Pacifique, considérons que les délimitations maritimes qui existent aujourd'hui ne bougeront pas, même en cas de disparition des aspects physiques qui génèrent en droit international les zones maritimes. Et puis la deuxième déclaration de 2023 qui vise à préserver le statut d'État, donc l'existence même d'un État et la protection des personnes qui sont des nationaux de ces États-là face au changement climatique et à l'élévation du niveau de la mer. Donc en disant, même si mon État disparaît sous les flots, on considère, nous, pays du Pacifique, que l'État continue d'exister en droit, même sans existence physique. Donc ce sont des choses qui innovent, mais qui montrent aussi à quel point les pays du Pacifique sont en train d'essayer de trouver des solutions à ce qu'ils considèrent comme la menace existentielle numéro un pour leur pays et pour leur population.
In Samoa and in many islands in the Pacific, we have a chiefly system.
Dans les îles Samoa et dans de nombreuses autres îles du Pacifique, nous avons un système de chefferie. Chaque village a un chef, appelé le Matai, qui est la personne qui prend les décisions pour la famille ou le village. C'est le leader. Par exemple, dans les îles Samoa, nous avons différents Matai, différents chefs, qui sont rattachés à chaque village. Et donc, quand vous pensez à la relocalisation de certains villages, cela pose des questions sensibles. Qui devient le chef? Quel titre de chefferie perdons-nous? Car nous avons de nombreux liens de généalogie, de connexions interfamiliales qui sont incluses dans notre titre de chefferie. Et lorsque nous perdons cela, nous perdons le lien à nos origines.
And so when we lose that, we lose the connection to where we came from.
C'est un extrait de votre documentaire, Géraldine Giraudeau, avec Valérie Batty, Nations of Water, cette habitante des îles Samoa, qui donc explique comment les déplacements liés à la montée des eaux menacent aussi l'ordre politique local de son peuple. Donc c'est avec tous ces arguments que vous venez de l'un des autres bien de nous décrire et de nous relater, que arrive devant d'abord l'Assemblée générale des Nations Unies, donc à New York, ce dossier-là en mars 2023, avec un consensus à la fin de la journée, un consensus à l'ONU pour porter cette affaire devant la Cour internationale de justice, donc l'instance judiciaire des Nations Unies. Un consensus, ça ne veut pas dire unanimité. Géraldine Giraudeau, il n'y a pas eu de vote d'ailleurs. Pourquoi ?
Mais c'est une première parce que c'est la première fois que une résolution visant à solliciter un avis de la Cour internationale de justice ne passe pas par un vote. Il y a eu un consensus grâce au travail diplomatique vraiment très conséquent, qui est remarquable, hein, qui a été réalisé. Et jusqu'au dernier moment, il était quand même craint que les États-Unis ou la Chine sollicitent ce vote, et ça n'a finalement pas eu lieu. Alors, ils ont néanmoins, après l'adoption officielle de la résolution, formulé quelques critiques. Le représentant américain a notamment bien insisté sur le fait que les États-Unis considéraient que ce genre de stratégie ne servait pas la cause et voire même pouvait être contre-productive. Mais néanmoins, voilà, il n'y a pas eu de vote officiel sollicité, et donc ça, c'était quand même quelque chose de vraiment remarquable dans le contexte d'une société internationale qui s'est depuis encore plus tendue, mais qui commençait déjà à être peu favorable.
Donc d'emblée, on entend devant l'Assemblée générale des Nations unies quelques représentants comme celui des États-Unis, comme vous nous le disiez, qui parlent de très sérieuses préoccupations, qui dit qu'un processus judiciaire pourrait compliquer les efforts collectifs au détriment de la voie diplomatique, qui sont des arguments qu'on entendra un peu plus tard devant la Cour internationale de justice lors des audiences qui se sont ouvertes en décembre dernier. Peut-être d'abord sur le consensus qui existe, Cameron Diver, entre les îles du Pacifique, ce forum des îles du Pacifique. Ce sont des îles qui ne sont pas toujours d'accord entre elles sur plusieurs sujets, mais qui là réussissent à faire bloc. Sur quoi en général peuvent-elles ne pas être d'accord, et comment ont-elles pu trouver vraiment un consensus entre elles sur la formulation des questions telles qu'elles les poseront un peu plus tard à la Cour internationale de justice?
Ce qu'il faut dire au départ pour répondre à cette question, c'est qu'il y a une très longue histoire de ce qu'on appelle régionalisme dans le Pacifique, qui est une forme de multilatéralisme régional et qui, en Océanie, est basée sur ce qu'on appelle le Pacific Way, qui est une formule qui relate à la fois les liens politiques et institutionnels, mais aussi des liens familiaux qui existent entre les peuples et les nations du Pacifique, et qui font que il bénéficie d'un socle extrêmement solide pour évoquer parfois des questions difficiles et sensibles et essayer de trouver un accord. Ça a été le cas par rapport à cette demande d'avis consultatif. Là où ils peuvent ne pas être d'accord, c'est sur des sujets par exemple comme l'exploitation minière des grands fonds marins, de développement de relations de sécurité et de défense avec certains partenaires non traditionnels, ou sur des prises de position particulières dans des enceintes internationales lorsque on a un intérêt particulier que l'on souhaite porter comme État, qui est parfois en contradiction avec des positions adoptées au niveau régional. Maintenant, le Pacifique a, depuis 1992, reconnu l'importance de l'élévation du niveau de la mer et des conséquences sur ces îles et sur ces populations. Par la suite, il y a une stratégie 2050 pour un Pacifique bleu, qui est le paradigme de développement, le paradigme politique de développement adopté par tous les pays et territoires du Pacifique, et qui reconnaît à la fois la menace existentielle du changement climatique que pose le changement climatique pour les pays et populations de la région, mais également l'importance de conjuguer action pour le climat et action pour l'océan, dans la mesure où on parle de petits États insulaires, mais de grands États océaniques, avec une relation très particulière avec l'océan, qui est le grand régulateur du climat, fournisseur de sécurité alimentaire, de travail et d'aspects de la culture. Et donc, dans le Pacifique, en fait, on trouve des accords parce que il y a non seulement un lien à la terre, il y a un vrai lien à l'environnement, et il y a un consensus, un réel consensus profond et partagé sur la nécessité de protéger à la fois le système climatique, mais également l'environnement, l'océan, la biodiversité et tout ce qui en découle pour sa valeur intrinsèque, mais aussi pour le bien-être des populations.
Ce qui n'empêche pas certaines divergences sur certains sujets, l'exploration des fonds marins par exemple. Certains y voient une opportunité économique, d'autres comme la Nouvelle-Calédonie s'y opposent catégoriquement. La Nouvelle-Calédonie qui vient de voter un moratoire sur l'exploitation des fonds pour les 50 prochaines années, années avec cette idée que l'exploitation risque de libérer le carbone contenu dans les sédiments des fonds marins et que ça ne ferait qu'aggraver encore le réchauffement ou le changement climatique. Mais néanmoins, Géraldine Giraudeau, au-delà de ces désaccords, ces États ont réussi, alors comme disait Cameron Diver, à travailler en bonne intelligence, mais aussi à gagner en influence petit à petit, au fil des ans, à peser davantage dans les négociations sur le climat.
Oui, c'est là où cette procédure, elle rend compte d'un phénomène beaucoup plus global. Comme l'a dit Cameron, il y a quelques sujets effectivement aujourd'hui qui sont source de désaccords, mais il y a de toute évidence un développement très important de ce qu'on pourrait appeler une diplomatie océanienne du climat. Et peu, au-delà, alors c'est très visible pour le Pacifique, mais même au-delà, une visibilité des États insulaires qui a été grandissante. Alors, évidemment, il faut déjà attendre le temps des indépendances pour que ces États, ces petits États insulaires aient leur souveraineté pleine et entière. Par différents facteurs, notamment l'application du droit de la mer, qui fait que ce ne sont plus des petits confettis terrestres, mais d'immenses nations maritimes entourées des plus grandes zones économiques exclusives du monde. Et donc des États qui deviennent beaucoup plus visibles, dont le nombre fait la force aussi, parce que le mouvement d'indépendance se réalise et plus ces États sont nombreux dans la seconde moitié du XXe siècle. Il y a des organisations internationales qui sont créées pour défendre leurs intérêts, notamment l'AOSIS, l'Alliance des petits États insulaires. On reconnaît aussi leur existence au travers d'un groupe particulier dans le cadre onusien. Et grâce à cela, ils vont, dans ces cadres-là, ils vont unir leurs forces être très visible au moment des négociations internationales, au moment essayer de peser plus au moment des COP, pour être aussi, Cameron l'a signalé, certes les premières victimes du changement climatique, mais aussi ceux qui sont à l'avant-garde, à l'avant-poste des solutions qui peuvent être proposées et pour lesquelles on peut se battre finalement, en proposant notamment la signature d'un traité pour la sortie de l'énergie fossile, dont le Vanuatu d'ailleurs est aussi un des leaders, et en passant aussi par la mobilisation des procédures consultatives des juridictions internationales, puisque avant de façon pratiquement concomitante, a été aussi sollicité un avis du Tribunal international du droit de la mer par la COSIS, une commission qui a été créée par le Vanuatu et Antigua et Barbuda, et qui depuis d'ailleurs a été ralliée par d'autres États. Donc cette procédure devant la CIJ, elle est en fait emblématique d'un mouvement beaucoup plus global d'États insulaires, de petits États insulaires comme on dit, qui sont déterminés à ne pas rester dans une position de victime et à faire entendre leur voix.
Avec donc des procédures judiciaires un peu tous azimuts ou diplomatiques, tous les moyens sont bons pour parvenir à répondre à ces deux questions finalement posées à la Cour internationale de justice dans des termes dont vous rappeliez, Géraldine Giraudeau, qu'ils sont l'objet d'un consensus, le fruit d'un consensus, donc qui ne sont pas exactement les termes qu'auraient choisi peut-être les États du Pacifique s'ils avaient été les seuls à en décider. Néanmoins, là, on est dans le cadre d'un consensus à l'ONU. Donc, deux questions posées à la CIJ. Quelles sont, en droit international, les obligations qui incombent aux États en ce qui concerne la protection du système climatique et d'autres composantes de l'environnement? Et quelles sont les conséquences juridiques pour les États qui, par leurs actes et omissions, ont causé des dommages significatifs à l'environnement? Alors, il faut maintenant raconter les audiences devant la Cour internationale de justice, audiences qui ont eu lieu en décembre dernier pendant 11 jours, ouvertes par l'envoyé spécial du Vanuatu, Ralph Regenvanu.
Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, notre délégation revient tout juste de la récente COP29 à Bakou, où nous avons été une fois de plus témoins de l'échec du processus. Il est inadmissible que la COP n'ait pas réussi à parvenir à un accord sur la réduction des émissions. Les engagements actuels des États en matière de réduction des émissions, même s'ils étaient pleinement respectés, entraîneraient une hausse catastrophique des températures. Pour de nombreuses personnes, y compris au Vanuatu, l'échec prolongé et systématique du processus de la COP a coûté leur bien-être, leur culture, voire leur vie. Il est urgent d'apporter une réponse collective au changement climatique, fondée non sur des considérations politiques, mais sur le droit international. La Cour, en tant qu'organe principal des Nations Unies, est particulièrement bien placée pour fournir des orientations faisant autorité sur l'ensemble du droit international.
L'envoyé spécial du Vanuatu lors de la première journée d'audience devant les juges de la Cour internationale de justice. En tout, ce sont plus de 100 nations et organisations internationales qui ont pris la parole en décembre dernier pendant 11 jours. Qui a-t-on entendu, Cameron Diver, du côté de ceux qui sont contre l'idée d'élargir les responsabilités des États sur le climat? Parce que dans le sillage de Ralph Regenvanu qu'on vient d'entendre, beaucoup d'États du Pacifique notamment ont pu s'exprimer, mais il y a tous ceux qui sont venus qui ont envoyé un porte-parole pour dire « nous, on n'est pas d'accord ».
Comme vous pouvez l'imaginer, c'est pour la plupart des grands États industriels, voire parfois des États en développement, mais dont l'essor de développement dépend d'une forte industrialisation, d'une forte utilisation de leurs ressources naturelles. Et là encore, on est face encore à ce mouvement de justice climatique qui est plus large que simplement la mobilisation du droit, qui tient compte de d'aspects éthiques, de l'inégalité, de responsabilité des uns face à un phénomène qui a été généré par d'autres, par exemple. Et quand on est dans un pays en développement, il y a la question d'équilibrer le droit au développement de ces populations-là avec le respect des obligations internationales. Et donc certains États en développement qui ont peut-être des réticences à voir élargir les responsabilités, il faut également essayer de prendre un peu le recul et de comprendre qu'ils se trouvent aussi, eux, face à des besoins de développement de leur propre population, le besoin de créer de l'emploi, de voir à quelle limite on pose la gestion durable d'une ressource, qu'est-ce qu'on peut générer pour construire des écoles, pour des routes, pour des hôpitaux, leur dire il faut que vous fassiez tout un tas d'efforts aujourd'hui qui vont vous coûter de l'argent et ne pas apporter des réponses à côté en matière de financement climatique, de transfert de technologie et tout cela, n'est pas de nature à les encourager à nécessairement faire tous les efforts qu'on attendrait en fait d'un grand pays industrialisé. Et pour ces grands pays industrialisés, bien évidemment, on pense aux économies qui sont basées sur les énergies extractives ou sur les industries extractives et tout cela, toutes les conséquences que cela peut avoir sur l'économie, sur le PIB, sur la croissance. Et donc, encore une fois, ce sont des dirigeants qui regardent la question climatique et également mettre ça en rapport, dans un rapport de force, si vous voulez, avec les autres considérations sociétales et puis électorales auxquelles ils doivent répondre.
Le gouvernement saoudien, par exemple, s'est exprimé, l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, avec cet argument le plus souvent entendu, c'est que les accords de Paris existent et que ce sont eux qui doivent servir de phare, alors qu'on a bien vu lundi que chaque État détermine sa propre contribution à l'accord pour ces accords de Paris et qu'ils ne sont pas contraignants au sens où l'aimerait ce qui exige une justice climatique plus forte. La Chine aussi, qui au lendemain de l'ouverture des audiences avait déclaré espérer que la Cour maintiendra le mécanisme de négociation des États-Unis, donc des Nations Unies, pardon, donc la voie plus diplomatique. Quand la Cour est-elle censée rendre son avis, Géraldine Giraudeau? Parce que ça, c'était en décembre. On attend l'avis de la Cour. Et comme il ne s'agit pas d'une décision contraignante, quoi qu'il en soit, qu'en attendent les États insulaires?
Alors, a priori, l'avis sera rendu en 2025, donc avant la fin de l'année. La temporalité, en fait, de ce genre de procédure, elle reste mal adaptée à l'urgence climatique, mais ça fait aussi partie des avantages des procédures consultatives. Elles restent quand même plus rapides que des procédures contentieuses. Donc, en tout état de cause, lorsque on est à l'initiative de ce genre de procédure, on sait très bien qu'on ne peut pas tout en attendre. Pour preuve, hein, on a un certain nombre d'avis qui ont déjà été rendus par la Cour et qui n'ont pas significativement changé de la situation sur le terrain, mais d'autres ont eu beaucoup plus de vertus. Et ils ont souvent, de toute façon, des effets indirects parce que, comme vous l'avez mentionné, ces avis sont dotés d'une très grande aura. Et selon la substance qui leur est donnée, c'est pour ça qu'on attend tous avec impatience de lire cet avis de la Cour, plus il y aura de substance, plus ça pourra être extrêmement utile à la fois comme outil de négociation, éventuellement, enfin peut-être même surtout dans la demande sur les pertes et préjudices, et pour servir de base, de source dans le cadre d'autres procédures et d'autres procès climatiques. Les États insulaires, alors quelque part, il y a déjà une victoire, j'ai envie de dire, parce qu'en termes de visibilité, et c'est ça aussi le contentieux climatique et toutes ces demandes de justice climatique, ça passe aussi par une sensibilisation, par une visibilisation des enjeux. Il y a quelques années, je ne suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui savait placer le Vanuatu sur une carte. Aujourd'hui, voilà, il y a quand même, ça a déjà, en ce sens, ça a déjà réussi à mettre en lumière un certain nombre de problématiques rencontrées par ces États. Je crois que, peut-être que Cameron pourra infirmer ou pas mes propos, mais je crois quand même que les espoirs sont peut-être un peu moins élevés qu'il y a quelques années quand la procédure a démarré. Pourquoi ? Parce que c'est la société internationale qui, en fait, en quelques années, a quand même connu des événements, des évolutions qui sont assez défavorables pour le droit international. Et sans perdre toute foi, j'allais dire, dans le droit international, bien sûr, il ne faudrait pas en arriver là, mais je crois qu'il y a quand même lieu de s'inquiéter sur les réels effets que pourra avoir la vie quand on voit... quand on regarde en ce moment d'autres événements et qu'on voit qu'on n'arrive pas à faire respecter les principes les plus élémentaires du droit international humanitaire, par exemple. Ce sens, je crains quand même que les espoirs soient un petit peu retombés, mais ça reste néanmoins quelque chose d'extrêmement attendu et qui va être très important pour la suite, en même temps aussi que les autres avis qui ont été sollicités, et notamment celui de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, continueront d'être attendus.
Donc il faut, pour que cette décision pèse, que la formulation soit suffisamment claire et précise, l'avis de la Cour internationale de justice, et qui pesera lourd seulement dans un monde, en effet, qui respecte le droit international. Et notamment, on pense à l'avis du 19 juillet de la CIJ sur les conséquences juridiques des politiques et des pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, qui n'ont pas eu d'effet concret par ailleurs, mais qui avait été salué comme une très grande avancée sur un plan davantage juridique. En tout cas, ces avis judiciaires, juridiques, participent à la construction de la notion même de justice climatique, aussi parce que différents procès se tiennent un peu partout de par le monde et qu'ils se nourrissent les uns des autres. Après les 27 étudiants du Vanuatu, nous parlerons des Suissesses âgées, comme elles s'appellent elles-mêmes, après cet artiste néo-zélandais samoan, King Kapisi. We got nothing to lose, we got nothing to prove, we got something to move when you're feeling the groove. Come on, nobody move, nobody get hurt, attention, when we put it in work. Extravaganza, cast some that under Miller, Robin Hood the Hunter, seeking sense of media. Yes, we'll be seeing ya, TV or media. First we'll be loving ya, then we'll be leaving ya. You never heard that King has preferred. Me never stop, me still putting in work. Me never hit to rub your face in the dirt. For real, rocking the realness since his thoughts were heard. Travel on the migration, bird times that I'm being to Montego, be something, so baby jam. Rock the same stage as the Godfather Bam. Produce me up a track of Luciano Quartz Dan. Living no Tito, aka New Zealand. Me got Samoan parents, so me a Samoan man, yeah. Brothers, sisters all across the land. Yo, you gotta clap your hands. Come on, clap your hands, everybody. Everybody just clap your hands. Like that, like that, like that. One time.
Everybody clap two times. Everybody clap two times. Here we go now. Like that. You guys ready? Lua party.
Nothing to lose, we got nothing to prove.
Nothing
got
to lose.
Something to move when you're feeling the groove.
Feeling the groove.
Nobody boo, nobody getting hurt. Attention. When we put singing work,
we got a network where track headless bombs really. Me like a terrorist, got a bomb the stage, hear me. This ain't no amateur, never been no scavenger. Cap slam like Slazenger, talk about the damager. Who's been preparing ya? We no ever fearing ya. Rhymes hot, they searing ya. We no ever cheering ya. Stuff them other cats, talk like them profit. We rock this microphone high like a rocket. South Pacific party people be the topic. Party, party people, have you got it?
King Kapisi, artiste néo-zélandais et samoan, sa famille vient de l'île de Savaï, principale île des Samoa. King Kapisi qui revendique son identité samoane et plus largement son lien avec les autres peuples du Pacifique. Cette musique, c'est justement un appel à la fierté de leur identité. We have nothing to prove. Nous n'avons rien à prouver. Rien à prouver, mais la justice à faire bouger. C'est l'objectif des îles du Pacifique et de leur recours devant la Cour internationale de justice pour le climat. Hasard du calendrier et pont intergénérationnel. Le jour même où les étudiants du Vanuatu voyaient leur démarche aboutir à l'Assemblée Générale des Nations Unies, des femmes retraitées en Suisse voyaient leur affaire à elles s'ouvrir devant la Cour européenne des droits de l'homme.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Ces aînés pour le climat se sont lancés dans cette affaire judiciaire, hein, dans un marathon qui a duré 8 ans, enfin presque 9, parce qu'on n'est encore pas tout à fait au bout. Et si nous l'avons fait, bien entendu, c'est pas juste pour notre petite santé, parce que nous sommes toutes très âgées. La moyenne d'âge de notre association, c'est 74 ans. Mais c'est sûr que du moment qu'on a gagné à la Cour européenne des droits de l'homme, les jeunes aussi ont gagné.
Anne Maurer, l'une des aînées pour le climat, ces 150 Suissesses âgées, comme elles le disent elles-mêmes, qui en 2016 arguaient de leur vulnérabilité face au changement climatique pour demander aux autorités suisses d'agir, déboutées par diverses instances, dont un tribunal administratif. Elles se tournaient en 2020 vers la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci a condamné la Suisse pour son inaction climatique, c'était il y a un an. Bonjour Judith Rochefeld.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit à l'école de droit de la Sorbonne de l'Université Paris 1, spécialiste de droit civil, des biens communs ainsi que des questions écologiques. D'abord, pourquoi ces dames, ces aînés pour le climat, se sont proposées pour incarner cette lutte juridique pour le climat? Pourquoi la question de la représentation est importante en l'occurrence?
Oui, elle est très importante et on l'a vu dans la première partie de l'émission. Hein, ça s'intègre, ce procès, dans une stratégie quasi mondiale, hein, de climat, de procès climatique. Certains acteurs prennent une stratégie de figuration des générations futures, des enfants, de ceux qui seront les plus en charge du fardeau de la dette climatique. Et les aînés pour le climat sont assez originales parce qu'elles ont pris comme représentation, et aussi, c'est une stratégie d'efficacité, je vous expliquerai pourquoi, mais ont décidé de figurer les victimes les plus directes de canicule, de dire que ces victimes-là, les plus directes, celles qui subissent les dommages si les degrés montent en été, vont agir en justice pour les autres, pour les générations futures. Alors, en quoi c'était une stratégie d'efficacité aussi? C'est que pour aller devant les tribunaux, et spécialement devant la Cour européenne des droits de l'homme, il faut être une victime directe de violation de ses droits, une victime, et notamment pour les questions écologiques, d'un seuil élevé de dommages. Donc, elle pensait qu'en empruntant cette stratégie, elle serait admise précisément plus que d'autres à plaider cette cause.
Est-ce que ce sont ces arguments-là qui ont porté auprès de la Cour européenne des droits de l'homme? Comment la CEDH a motivé sa décision de condamner la Suisse pour inaction face au changement climatique?
Alors, paradoxalement, elles n'ont pas été reconnues, elles, comme victime suffisamment directe, suffisamment présente. Leur association, en revanche, a été reconnue légitime à défendre cette cause et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et pourquoi la Suisse? Alors, la Suisse est très, très déçue, hein, d'être le premier pays, très en colère d'être le premier pays, alors que c'est un pays peu émetteur, si on ne compte pas, hein, toujours les émissions importées. Je ferme cette parenthèse, mais elle est importante. Pourquoi la Suisse était devant la Cour européenne des droits de l'homme, pourquoi les aînés avaient décidé d'y aller? Parce qu'elles estimaient, il y avait une première première loi climatique en 2011, la Suisse n'avait pas, comme beaucoup d'autres, respecté ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Elle avait proposé une réactualisation de cette loi en 2017 et elle a tenté de faire admettre cette loi par référendum en 2021. Et les Suisses ont été en désaccord sur les moyens proposés. Et il a fallu attendre une loi climat de 2022 qui a, elle, été acceptée en 2023 par référendum. Mais les Suisses, certains, considèrent que l'objectif est bon. Il faut être à la neutralité carbone en 2050 comme tous les États européens ou qui s'approchent de l'Europe. Mais c'est insuffisamment précis dans la planification de la mise en œuvre, c'est insuffisamment précis dans les séquences temporelles et en particulier aussi, on fait peser la charge la plus lourde après 2031, c'est-à-dire sur les plus jeunes, ce qui a valu par exemple en Allemagne une reconnaissance par la Cour constitutionnelle allemande des générations futures, une reconnaissance juridique des devoirs envers les générations futures et envers les jeunes. C'est-à-dire, on ne peut pas faire peser sur les jeunes la charge de cette lutte.
La Cour européenne des droits de l'homme a notamment reproché à la Suisse de ne pas avoir une planification suffisante, de manquer d'objectifs chiffrés, a également statué, si j'ai bien compris, que le droit au respect de la vie privée, qui est un droit fondamental, inclut celui de ne pas être touché par le réchauffement climatique. C'est donc une interprétation de la CEDH. Est-ce à dire qu'à l'avenir, la Cour européenne des droits de l'homme pourra se substituer aux États dans la définition de leur politique climatique, Judith Rochefeld?
Non, pas exactement. Ce point doit être absolument clarifié parce qu'il est à l'origine d'un courroux de beaucoup de pays contre la Cour européenne des droits de l'homme qui se substituerait, ou alors on a la critique récurrente du gouvernement des juges. Alors je voudrais clarifier ce point très important. Ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme est effectivement absolument capital. Elle a une mission qui est d'interpréter de façon dynamique la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire d'adapter les droits, la lecture des droits fondamentaux qui y sont reconnus selon la société, selon son évolution. Et elle fait rentrer dans la vie privée la protection du milieu de vie, donc des considérations environnementales, notamment depuis 1994. Et là, on a un nouveau versant depuis 2024 qui est d'être protégé effectivement dans son milieu de vie, dans un climat stable et vivable. Donc ça, c'est la première chose. C'est un apport effectivement très, très important. Est-ce qu'elle se substitue aux États? Elle fait très attention de répondre à cette question. Elle ne dit pas à la Suisse ce qu'il faut faire. Elle dit en revanche qu'elle a que tout pays, on reviendra peut-être sur le fait que ça a des effets en tant qu'interprétation sur beaucoup d'États, elle dit à la Suisse qu'elle a une obligation de poursuivre cette finalité, ça c'est un résultat que la Suisse doit atteindre, poursuivre cette finalité, protéger ses citoyens du dérèglement climatique. En revanche, il y a un principe de subsidiarité, elle ne peut pas se substituer dans le choix des moyens à l'État en question. Donc, elle fait vraiment attention à cette dichotomie.
Alors, en effet, cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme ne se substitue pas aux politiques des États. Néanmoins, sa mise en œuvre est surveillée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe, qui a d'ailleurs mis en garde la Suisse en mars dernier de ce qu'elle n'en faisait pas encore assez pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Cette décision a-t-elle été brandie depuis, utilisée dans d'autres... son interprétation de la CEDH dans d'autres procès intentés ailleurs pour forcer à l'action climatique?
Oui, absolument. Elle est très importante. Elle a déjà eu des effets. Alors, juridiquement, elle est déclaratoire. Un État doit s'y conformer. Et normalement, la Suisse, on peut le noter, est un très, très bon élève du Conseil de l'Europe et met beaucoup, normalement, de rigueur à respecter ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme. Sur les autres États membres, donc 46 États membres du Conseil de l'Europe, ce qu'a dit la Cour européenne à ce qu'on appelle l'autorité de choses interprétées, les juridictions doivent en tenir compte dans leurs interprétations désormais. Et on a un premier exemple qui est un exemple très important, qui est l'affaire Shell, le 12 novembre 2024. Shell qui est qui a été attraite devant les tribunaux néerlandais pour ne pas être conforme dans son modèle d'affaires, ne pas avoir une trajectoire conforme à cet objectif de rester sous 1,5 degré. Dans cette affaire-là qui était en appel, le tribunal ayant prononcé une injonction à Shell de baisser ses émissions de 45%, elle s'est d'ailleurs délocalisée dans son deuxième siège social au Royaume-Uni. Dans cette affaire en appel, la cour d'appel de La Haye s'est appuyée en partie sur la décision qui venait de tomber, donc le 9 avril 2024, le 12 novembre 2024, elle s'est servie de cette décision qui était à l'égard d'un État pour dire que les entreprises systémiques, celles qui contribuent au dérèglement climatique, celles qui ont le pouvoir, parce qu'elles sont systémiques, d'avoir une lutte efficace, devaient être diligentes. Et elle a interprété ce devoir de due diligence en faisant référence à ce qu'avait dit la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, c'est un standard qui va peu à peu nourrir les interprétations de beaucoup de juridictions.
Ouais, ce qui n'a pas empêché Shell d'ailleurs de remporter le procès en appel. Donc c'est en demi-teinte ce constat-là. Néanmoins, comme vous dites, cette décision a nourri d'autres procès contre les États aussi, puisque Shell est une entreprise privée. Tous les procès en lien avec le climat, les procès nationaux qui ont lieu contre des États, donc la Suisse, les Pays-Bas aussi, puisque l'État néerlandais a été visé dans un procès en 2019. Les requérants là aussi s'inspirent les uns des autres, apprennent les uns des autres de procès en procès. En quelques mots, Judith Rochefeld, pour conclure.
Oui, tout à fait. Oui. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un mouvement qui s'est construit avec les COP, le GIEC en termes scientifiques, et c'est un réseau mondial qui relocalise dans les arènes nationales cette question du climat qui est bien oubliée par ailleurs. Et donc, on a dans beaucoup d'arènes, Amérique latine, États-Unis, Australie, Corée, Japon, toutes part en Europe, on a des procès climatiques contre les États et contre les grandes pétrolières pour que chacun se conforme à cette poursuite de l'objectif de rester sous 1,5 degré ou 2 degrés qu'on a déjà peut-être dépassé. Donc, depuis quelques années, on l'a dépassé, mais voilà.
Merci. Oui, merci beaucoup Judith Rochefeld. Une coordination, je vous remercie. Je renvoie vers une des dernières tribunes que vous aviez publiées dans Le Monde. Climat, c'est dans les arènes nationales que l'avis de la Cour internationale de justice pèsera d'un poids considérable. Nous mettrons le lien sur la page de Culture Monde. Cameron Diver, les étudiants du Vanuatu d'un côté, les dames âgées de Suisse. Vous constatez vous aussi cette circulation de ce qu'on pourrait appeler un capital juridique entre différents acteurs d'un État à l'autre.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un vrai mouvement transnational de création d'un corpus juridique dont on peut s'inspirer à la fois au niveau international, au niveau régional et puis dans des contentieux intentés au niveau national. Ce qui montre à quel point ce mouvement de justice climatique et son pendant de justice pour l'océan qui est en train de se développer sont vraiment des choses qui commencent à irriguer les coulisses des négociations, les réflexions des étudiants, les réflexions sur comment mobiliser le droit de manière stratégique pour répondre à l'objectif justement de défense de la nature, de la biodiversité, de la planète pour les générations futures et bien évidemment actuelles.
Et vous serez d'ailleurs la semaine prochaine à Nice pour le grand sommet international sur les océans. Vous étiez Cameron Diver en direct depuis ICI Azur à Nice, que je remercie Alexis Geoffroy et Dorian Fabreau de vous avoir accueilli. Je rappelle que vous êtes doctorant en droit public à l'université Paris-Saclay et vice-président de l'ONG Island Conservation qui défend la biodiversité des fonds marins. Je remercie aussi Géraldine Giraudot, professeure de droit international, membre de l'Institut universitaire de France, qui a co-réalisé le film documentaire Nations of Water, les peuples du Pacifique, face au changement climatique, qui était avec nous depuis Wellington, en Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale. Présenté par Laurence Méride, et ce matin, près d'une centaine de lauréats du prix Nobel appellent à sauver la République démocratique du Congo.
Dans une tribune au journal Le Monde, il demande à mettre fin à la tragédie congolaise. 3 décennies d'un conflit armé jamais résolu et qui connaît un regain depuis 4 ans. Une guerre qui oppose les forces gouvernementales aux rebelles du mouvement du 23 mars, le M23, soutenu par le gouvernement du Rwanda. Ce conflit, c'est un héritage du génocide des Tutsis au Rwanda, assassinés par des extrémistes Hutus qui se sont réfugiés dans l'est de la RDC. C'est dans cette région que se concentrent les combats. Le M23 dit protéger les Tutsis congolais contre des groupes rebelles Hutus et réclame également le retour au Congo des réfugiés Tutsis congolais dont beaucoup vivent en Ouganda et au Rwanda. Il y a aussi l'enjeu des minerais. Le sous-sol de la République démocratique du Congo regorge d'un tas de ressources, notamment le cobalt qui sert à fabriquer les batteries de nos smartphones. En janvier, la RDC vit un tournant dans la guerre. Le M23 entre dans Goma, la capitale du Nord Kivu, la plus grande ville de l'est du pays, aux mains des rebelles. Il mène une traque aveugle des derniers alliés de Kinshasa, selon le reporter de Jeune Afrique sur place. L'insécurité explose, selon Radio Okapi, en ce début de juin. Les opérations de ratissage se poursuivent. Des assassinats ont été signalés ces dernières semaines dans les quartiers de Majengo, Katoyi, Ndosho et Mugunga. Des jeunes enrôlés de force également.
En 2025, plus de 10 millions de Congolais vivent donc dans la peur sous occupation.
Et oui, et plus de 26 millions de personnes font face à une faim sévère. Près de 8 millions sont déplacés à l'intérieur du pays. Des enfants sont privés d'accès à l'éducation en raison de la destruction ou la fermeture des écoles. Voilà ce qu'on peut lire dans la tribune publiée par le journal Le Monde. Les 75 prix Nobel reprochent à la communauté internationale de n'en avoir que faire de ce conflit, d'accorder plus d'importance aux actions de la Russie en Ukraine qui ne diffèrent pas fondamentalement de celles du Rwanda en RDC. Ce qui pose de lourdes questions, selon eux, sur la valeur accordée à la vie des populations noires.
Pour conclure votre revue de presse, Laurence Méride, aux États-Unis, les étudiants étrangers qui doivent intégrer Harvard sont priés de ne pas mettre les pieds sur le sol américain.
Donald Trump leur interdit l'entrée aux États-Unis, une mesure prise hier et une escalade de plus dans son conflit contre les universités américaines qu'il accuse notamment de promouvoir des idées de gauche trop progressistes. Cela prend effet immédiatement. Les étudiants déjà inscrits sont eux aussi menacés. Et comme si le média Jeune Afrique avait pressenti ce nouveau durcissement, deux de ces journalistes ont publié hier une liste des pays africains les plus touchés par les restrictions de visa étudiants. Rimboussmi et Maëlys Dudouay expliquent que les étudiants africains figurent parmi les principales victimes collatérales de la politique migratoire de Donald Trump. Ainsi sont concernés le Nigeria, l'Éthiopie, le Ghana, la République démocratique du Congo également, qui avec plus de 1700 étudiants inscrits aux États-Unis en 2023-2024, est le pays francophone d'Afrique centrale le plus représenté sur les campus américains. Les taux de refus de visa dépassent les 60% selon une étude de la présidente Alliance on Higher Education and Immigration et de la société Shorelight qui date de 2022. Aucun chiffre officiel plus récent n'a encore été publié. Les étudiants sont traqués jusque sur leurs réseaux sociaux. Les autorités utilisent l'intelligence artificielle pour analyser leurs activités en ligne. Les publications jugées favorables à des organisations désignées comme terroristes, telles que le Hamas, peuvent entraîner la révocation ou le refus de visa. Et l'article de conclure que face à ces obstacles, de plus en plus de candidats se tournent vers des destinations perçues comme plus accessibles, telles que le Canada, l'Allemagne ou encore la France.
Merci beaucoup Laurence Méride. Demain, comme chaque vendredi dans Culture Monde, vous retrouverez Mélanie Chalandon et ses invités pour une table ronde consacrée au modèle Javier Milei en Argentine avec Mariana Heredia et David Coppello, ce modèle mis en question qui semble pour l'instant fonctionner, mais parce qu'il y a de grands fonds internationaux qui arrivent et des prêts du FMI qui arrivent en Argentine. Une table ronde précédée d'un retour de la région du Puntland en Somalie avec la journaliste Margot Ben du Figaro.